bonsoir à tous. La carte scolaire à la une de l'actu ce soir, avec des fermetures de classes à prévoir la rentrée prochaine. 28 fermetures pour 11 ouvertures seulement en Deux-Sèvres. Pendant ce temps-là, ce matin à Noirterre, les délégués de l'éducation nationale ont récompensé les CM de l'école Jean de la Fontaine pour un travail sur la mémoire collective. Les entreprises peuvent s'inscrire pour le job dating de l'Aglo de Bay qui aura lieu en octobre. Le contexte économique n'empêche pas complètement les intentions d'embauche. À Thouars, le chantier de la place Lavaux commence alors que celui de la place Flandre-Dunkerque s'est achevé. Et puis Antoine Rigaudeau, invité de Cholet Basket, le podcast Le Roi Antoine, clôture la saison en majesté.
La météo à l'issue du journal et le thermomètre qui monte encore d'un cran demain.
Un accident du travail cet après-midi chez Boyer Accouvage à la Boissière en Gâtine. Un prestataire de la société Sigex s'est gravement brûlé au torse et aux avant-bras, ébouillanté après la casse d'une vanne alors qu'il intervenait sur la manutention d'une chaudière. Âgé de 41 ans, demeurant en Deux-Sèvres, il a été évacué vers le centre hospitalier de Niort.
La carte scolaire, 28 fermetures contre 11 ouvertures.
Lors de la deuxième rencontre préparatoire de la future carte scolaire hier, face à la baisse démographique, moins 600 élèves selon les prévisions du rectorat, la directrice académique des services de l'éducation nationale, la DASEN, a indiqué au syndicat qu'en septembre prochain, il faudra compter sur 17 classes en moins dans les écoles de Sèvriennes et certaines devront fermer leurs portes purement et simplement à la rentrée 2025-2026. Écoutez Julie Coupry, co-secrétaire départementale du SNU-IPP FSU des Deux-Sèvres.
Tout pendant que le ministère continuera à supprimer des postes dans l'éducation nationale, oui, on aura toujours la même danse de suppression massive à la première phase de la carte scolaire, pour faire un peu moins de suppression à la seconde phase, pour arriver à un équilibre qui correspond à ce qui est attendu par le ministère, c'est-à-dire une baisse de 10 postes en ce qui nous concerne cette année pour la rentrée prochaine. Mais ce qu'on sait, nous, c'est qu'à la rentrée prochaine, on aura moins de postes d'enseignants que cette année.
28 classes devraient donc fermer à l'année prochaine contre 11 ouvertures. Deux écoles, Saint-Génard et Chèvre, vont fermer. Et puis il y a le cas de la Chapelle Gaudin en RPI avec Moutier-sous-Argenton. Il n'y aura pas de fermeture de classe, mais les CM resteront à Moutier-sous-Argenton alors que la DASEN ne veut pas qu'il y ait un seul enseignant dans l'école. De fait, l'école de la Chapelle Gaudin restera vide à la rentrée prochaine, ce que déplore Armel Cassin, maire d'Argentonnet, dont la Chapelle Gaudin est une commune déléguée.
Une fermeture d'école, c'est jamais agréable. Hein. Ce que l'on a réussi à discuter au dossier, c'est qu'il n'y a pas de fermeture de classe. C'est un regroupement dans un même bâtiment. Aujourd'hui, à la Chapelle Gaudin, il y avait les CM1 et les CM2. Les petites classes de maternelle, le CP, le CE1 et le CE2, étaient sur Moutier-sous-Argenton.
Et donc tout le monde sera à Moutier-sous-Argenton l'année prochaine.
Tout le monde sera à Moutier-sous-Argenton l'année prochaine.
Mais on comprend bien que pour la Chapelle Gaudin, eh bien, c'est une perte, évidemment.
Mais bien entendu, et c'est ce que je regrette, puisque l'État nous demande de revitaliser nos petits bourgs, d'y attacher de l'importance, de créer du lien, de créer de l'animation. Et on subit et on n'a pas la main, quoi.
Armel Cassin, maire d'Argentonnet, à propos de l'école de la Chapelle Gaudin, qui n'accueillera plus d'élèves à la rentrée prochaine. Le RPI n'en sera plus vraiment un, car tous les élèves seront accueillis à Moutier-sous-Argenton.
Les CM1, CM2 de l'école Jean de la Fontaine de Noirterre, récompensés par les délégués départementaux de l'éducation nationale.
Ce matin, 18 juin, les 18 élèves de la classe de Madame Duquesnoy ont reçu la visite des délégués et des élus qui sont venus les féliciter pour leur travail sur le devoir de mémoire. Ils ont remporté le concours Aventure citoyenne proposé par les DDEN, représentés par Jean-Marie Paulus, vice-président départemental et président de la commission, Michel Benoît, président de l'Union départementale, et Jean-Luc Girard, référent local.
Ils pouvaient répondre soit dans le cadre de la citoyenneté, soit l'accueil de l'étranger, soit le travail sur la mémoire collective. Et donc là, ils ont choisi le travail de la mémoire collective, qu'ils ont restitué sous la forme de maquette.
Notre intérêt, c'est que les enfants apprennent par l'histoire. Et nous n'avions pas de concours auparavant. Nous avons mis en place ce concours maintenant, il y a 6 ans. Il prend de l'ampleur.
Bien sûr, c'est une fierté. Et surtout qu'il faut que cette école rayonne. Il faut qu'elle soit visible pour éviter également trop grande baisse d'effectifs. Et puis en plus, j'ai l'impression que, il faut que ça valorise les élèves. Et je pense qu'on les valorise pas, on ne valorise pas assez leur travail.
Ainsi, fin 2024, les CM1 et CM2 de l'école publique de Noirterre sont allés visiter le Centre Régional Résistance et Liberté de Thouars avant de réaliser leur maquette. Noah, Louise, Milan et Lenny entourent leur maîtresse, Madame Duquesnoy.
On a principalement fait des maquettes avec des objets en papier et en carton.
Qu'est-ce que tu as représenté ?
Le débarquement à Omaha Beach.
D'accord. Alors toi, Louise, qu'est-ce que tu as représenté dans ta maquette ?
Moi, j'ai représenté les tickets de rationnement. J'ai fait une épicerie avec des personnes qui faisaient la queue pour entrer.
Moi, j'ai fait à peu près pareil que Louise. Mais après, moi, j'ai mis des photos sur le côté de Chiché à l'époque.
Moi, c'était sur les actions militaires et j'ai mis des soldats français et allemands.
Ah, il faut savoir que ce travail il s'est effectué après une visite du Centre Régional Résistance et Liberté.
C'est ça, en décembre nous sommes allés au centre de Thouars où là ils ont pu assister à un atelier et suivre le chemin de deux enfants clandestins. Et ensuite pendant les vacances, ils avaient une maquette avec un thème chacun à reproduire en famille.
Et avant d'être récompensé par la DDEN qui a remis un chèque de 600 euros ce matin, le projet avait été soutenu par l'association des parents d'élèves de cette école Jean de la Fontaine de Noirterre qui compte 3 classes pour 63 élèves.
4200, Fabien, c'est le chiffre du jour.
Et il correspond au nombre de visiteurs reçus sur le salon régional Emmaüs. Ce dimanche à Niort, les organisateurs se disent très satisfaits de cette affluence. Organisé pour la 6e fois, le job dating du bocage bressuirais a lancé Hugo Schwender ses inscriptions pour les entreprises.
L'année dernière, l'événement avait une nouvelle fois connu une grande réussite avec près de 1000 visiteurs sur la journée à Bocapol, mais des questionnements ont accompagné sa reconduction le 23 octobre 2025. Emmanuelle Ménard, vice-présidente de l'Aglo, en charge de l'économie.
Le job dating fonctionne et c'est vrai qu'on s'est interrogé compte tenu de la conjoncture parce que les offres sont un petit peu moins nombreuses, donc on aurait pu se dire est-ce qu'il y a vraiment un intérêt si on n'a pas d'offres. Mais en fait, on se lance quand même parce que les entreprises nous font remonter qu'elles ont toujours des grandes problématiques de recrutement. C'est de montrer que l'on se bouge tous ensemble, hein, c'est vraiment un partenariat, et donc d'attirer, alors soit de maintenir des salariés sur notre bassin de vie, ou au contraire de faire venir de nouveaux salariés sur le bocage bressuirais.
Un partenariat avec la Maison de l'Emploi du bocage bressuirais et Agence France Travail de Bressuire. La Maison de l'Emploi veut surtout y voir ces jeunes y participer. Benoît Simoneau en est le président depuis début juin.
La Maison de l'Emploi, une de ses principales missions, c'est l'accompagnement des jeunes, via la mission locale notamment. Et puis lors de ce forum de l'emploi, ce job dating, des jeunes peuvent venir découvrir des entreprises et c'est l'occasion aussi peut-être de favoriser des entrées en apprentissage dans des entreprises pour certains jeunes que la Maison de l'Emploi peut accompagner.
Nouveauté 2024, le job dating inversé avait satisfait par sa formule innovante. Il va être reconduit cette année encore. Laurence Guillaume, responsable d'équipe à l'agence France Travail de Bressuire.
On va solliciter 6 à 8 entreprises, donc à qui on va demander de réaliser un CV entreprise avec les métiers. Donc ils auront à peu près une dizaine de minutes lors du job dating pour s'adresser à 6 ou 8 personnes qui par la suite les interrogeront.
C'est peut-être difficile pour les entreprises de réaliser ce genre de job dating, elles sont pas habituées du tout.
Effectivement, l'exercice n'est pas simple, il l'est pas pour un demandeur d'emploi, mais il faut se dire que pour les entreprises c'est aussi la même chose. Le rôle est inversé, donc ça permet à l'entreprise de se projeter, de se mettre à la place d'eux.
Se mettre à la place d'eux, ça va donc être le défi de 8 entreprises en octobre prochain. En 2025, les entreprises du bassin avaient encore 2600 projets de recrutement. Le taux de chômage reste très faible, 5,7% dans les Deux-Sèvres. Mais les structures ont tout de même notifié des difficultés accrues à recruter. Les inscriptions sont lancées et à retrouver sur le site internet dédié.
Merci Hugo, et je précise que les 98 stands disponibles sont à réserver gratuitement.
Dans le centre-ville de Thouars, un chantier peut en cacher un autre.
Prisonnière des travaux pendant 4 mois, la place Flandre-Dunkerque, toute pimpante après sa rénovation, vient d'être rendue à la circulation. 60 places de parking redeviennent disponibles en cœur de ville, entre le théâtre et le cinéma. L'espace retrouve donc sa vocation de stationnement, mais en plus aéré, car il va se végétaliser à l'automne. Un chantier s'efface, un autre débute à deux pas de là sur la place Lavaux où le bitume va s'effacer devant 40 000 plantes vivaces et 400 arbres. La métamorphose en cours réjouit le maire au micro-colline de Dominique Hérault. Les impatients y voient déjà le début de la fin du chantier.
On peut penser que c'est effectivement le début de la fin, mais c'est une étape importante. Plusieurs motifs de satisfaction, c'est d'abord, on est à l'heure. Et moi, j'aime bien les trains qui arrivent à l'heure. On avait dit qu'on ouvrait le 12, on a ouvert le 12 au matin et pas au soir. Donc, ça veut dire qu'on a aussi des belles entreprises sur un beau projet et qu'on continue à dérouler. Et la deuxième phase, c'est la même chose, c'est qu'elle est, elle est en route aujourd'hui sur le boulevard Ernest Renan, qui est lui complètement défoncé aujourd'hui et qui devrait se terminer au 10 novembre. Alors, je retiens cette date parce que je vais maintenant ne pas les lâcher. C'est le 10 novembre, c'est pas le 11. Alors, il faut retenir aussi la qualité. C'est ouvert maintenant, cette première partie. C'est des places de parking à côté du cinéma, du théâtre, et qui vont bien être utiles parce que de l'autre côté, on va en manquer pendant les travaux de la deuxième partie. Et le projet, il va être très beau quand on aura fini de planter tous les arbres.
La nouvelle place Lavaud doit être partiellement accessible dans 5 mois, en novembre donc, mais la totalité de la surface sera livrée à la mi-avril 2026, soit 5 mois plus tard. En attendant, certains commerces souffrent en raison des difficultés d'accès à leur clientèle. La municipalité entend les épauler. Bernard Pénaud.
Il y a des remontées de terrain des commerçants qui souffrent de ces travaux puisque effectivement ça ne peut pas se faire sans gêne et pour certains types de commerces sans perte de chiffre d'affaires. C'est la raison pour laquelle on a mis en place une nouvelle commission de règlement amiable et on va mettre en place un processus d'indemnisation. Une fois qu'elles sont validées par la commission, elles passent au conseil municipal et derrière je pense qu'il faut peut-être un mois environ pour que ce soit payé.
Le même système avait déjà été activé pour les travaux de la rue Porte de Paris et des pistes cyclables. Pour le chantier actuel, c'est une somme de 80 000 euros que le conseil municipal a mobilisé pour l'indemnisation des commerçants. Une goutte d'eau par rapport au chantier de rénovation qui frise les 6 millions d'euros, le coût d'un lifting esthétique pour renvoyer au passé l'aspect champ de foire qu'inspirait les places centrales. Reportage de Dominique Hérault.
Antoine Rigaudot, invité de Cholet Basket, le podcast.
Un podcast publié aujourd'hui et vous pouvez le retrouver sur notre site internet ou sur Ouest France, partenaire de cette émission animée par Vincent Nori, Philippe Audouin et Julien Hippocrate. Antoine Rigaudot, légende du club, formé dans les mots, j'ai toujours attaché à CB, notamment à l'Académie Gauthier, qui doit rester un atout majeur du club. Selon Antoine Rigaudot, interrogé par Hugo Schwender à l'issue de l'enregistrement du podcast.
C'est de la formation qui est sur la continuité de toutes ces années de formation justement du club de Cholet Basket. Ça fait partie de l'ADN du club de Cholet Basket. Et puis ben, au fil des ans, il y a toujours des joueurs qui sont intéressés pour venir dans ce club de Cholet Basket parce qu'ils savent qu'il y a une bonne formation et puis qu'il y a surtout aussi la possibilité pour eux, s'ils le méritent, d'évoluer avec l'équipe professionnelle.
Vous portez un attachement à Cholet encore une fois. Est-ce qu'on pourrait vous revoir au club ?
Aujourd'hui, c'est pas d'actualité. C'est une réponse un peu bateau que je dis. Mais non, il n'y a pas d'envie particulière à intégrer le club ou quoi que ce soit. Je suis une personnalité un peu électron libre. J'ai envie et besoin d'ailleurs pour m'épanouir d'aller un peu partout dans tous les endroits et puis de me ressourcer pas seulement dans le monde du basketball, même je me ressource plutôt en dehors, mais d'aller découvrir aussi et transmettre et partager moi mon expérience au niveau des jeunes de tous les niveaux.
Antoine Rigaudot, que vous pouvez écouter dans ce podcast, 11e numéro de Cholet Basket, le podcast, un long entretien en public pour la première fois, mené par Vincent Nori, Philippe Audouin et Julien Hippocrate à l'occasion des 50 ans de CB célébrés ce mercredi. Gilles Bourdoulex a d'ailleurs annoncé que l'espace rouge de la Meilleraie qui accueille les rencontres de Cholet allait être renommé espace Michel Léger du nom du président fondateur. Dernière info concernant Cholet Basket, Stéphane Smith va quitter le club pour poursuivre sa carrière en Allemagne.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
On a toujours ce soleil autant dominateur.
Oui, un thermomètre qui continue de monter demain jeudi, 33-34 degrés pour les maximales. Les Deux-Sèvres, comme une bonne moitié de la France, sont placés sous vigilance jaune canicule à partir de demain. À 17 à 19 degrés pour les minimales déjà demain matin. Du vent encore à 40 km/h ce jeudi.
Et voilà pour l'actu près de chez vous en ce mercredi 18 juin. Le retour c'est demain matin.
Demain matin à 7h avec Patrice Bémanangy. Bonne soirée.
C'était la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.